Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La COP 23 s'est ouverte ce matin à Bonn en Allemagne. Objectif de cette nouvelle conférence climatique, avancer dans l'application et la mise en œuvre de l'accord de Paris à la fin 2015. Depuis la COP 21, la hausse des températures ne se dément pas. 2017 est parti pour être l'année la plus chaude depuis que les températures sont relevées. 2017 a été marqué par des événements climatiques catastrophiques nombreux comme les ouragans Harvey, Irma ou Maria, ou encore des épisodes de mousson particulièrement marqués en Asie. Le retrait américain de l'accord il y a quelques mois n'est pas non plus un bon signal. Faut-il aller plus loin, prendre de nouvelles mesures pour le climat? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Corinne Lepage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement et présidente de CAP 21. Et Geneviève Azam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, membre du conseil scientifique d'ATAC. L'objectif de l'accord de Paris sur le climat, c'est de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre suffisamment d'ici à 2100 pour limiter à 2 degrés, voire à 1 degré et demi, la hausse des températures par rapport à l'ère pré-industrielle. 168 pays l'ont signé. Posons la question directement, cet objectif est-il encore tenable, Corinne Lepage ?
Non. Non. Et d'abord, il n'était déjà pas beaucoup le jour où l'accord a été signé. Et là, je pense que maintenant, c'est quasiment mission impossible. Du reste, les derniers rapports que l'on a pu regarder disent très clairement que non. Et que très probablement, en plus, on a atteint le seuil de l'irréversibilité. Ça, c'est une étude américaine, pourtant les Américains, vous en avez parlé il y a un instant, qui est sortie il y a quelques jours, qui le dit très clairement.
Geneviève Azam, vous êtes d'accord avec ce diagnostic ?
Oui, mais je pense toutefois qu'il faut quand même garder l'objectif des 2 degrés, parce qu'on a beaucoup lu dans la presse que c'était terminé pour les 2 degrés. On a beaucoup de raisons de penser qu'effectivement, on a passé des seuils, mais je crois que ça a le mérite d'exister. C'est un des rares objectifs concrets qui existent dans ce texte de l'accord de Paris, 2 degrés ou 1,5. Je crois qu'il faut le garder comme objectif, même si nous savons que d'ici 2030, ça sera très difficile, puisque au rythme actuel, nous aurons émis, je crois, entre 11 et 12 gigatonnes de trop de CO2, c'est-à-dire 11 ou 12 milliards de tonnes de CO2 en trop par rapport à la tendance qui nous permettrait de rester en dessous des 2 degrés.
Avec les objectifs actuels de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, les scientifiques parlent d'une hausse de 3 degrés, voire 3 degrés et demi. Ça veut dire quoi comme conséquence, Corinne Lepage ?
Ça, c'est déjà dans l'accord de Paris, puisque vous savez que l'accord de Paris, il y a des objectifs qui, en portant sur le marché, ne sont pas contraignants. Et qui, tous cumulés, nous mettent à entre 3 degrés et 3 degrés et demi. Mmh. Bon, donc ça veut dire qu'il faut vraiment changer de braquet. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire. Là-dessus, je rejoins Geneviève Azam, mais elle a raison. On pourrait le faire. On pourrait le faire en changeant notre manière de vivre en ville, notre manière de nous transporter, notre manière de produire de l'alimentation. Et on retrouve le problème des pesticides, des intrants et le reste. Tout ça est complètement lié, évidemment. Sauf que d'abord les États-Unis, qui restent le deuxième pollueur du monde,
derrière
après
la Chine,
ouais. Sont pas du tout sur cette ligne-là. Et ce faisant, ils n'engagent pas trop les autres à y être. J'ajouterai un point supplémentaire, c'est que ce sont des gros contributeurs. Et qu'une des grosses incertitudes que nous avons, c'est quel argent les États-Unis vont-ils mettre sur la table durant la période où ils sont encore dans l'accord de Paris, puisqu'ils n'en sortiront en réalité
qu'à la fin 2020.
Exactement.
Voilà. Est-ce que une hausse de 3 degrés ou 3 degrés et demi des températures, ça annonce des épisodes encore plus catastrophique, Geneviève Azam, je sais que vous n'êtes pas météorologue, mais c'est ça que ça veut dire ? Ça veut dire des migrations, des migrations climatiques, des choses comme ça ?
Oui, je voudrais dire déjà qu'il y a eu quand même en Asie du Sud-Est cet été 40 millions de personnes déplacées du fait des inondations. Vous avez parlé des moussons. Donc évidemment on va avoir ça. Et souvent je donne le chiffre qui permet de bien comprendre ce que peuvent signifier 3 degrés. Hein, c'est qu'actuellement, et on voit déjà les conséquences que cela peut avoir, nous avons une augmentation de 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Et donc, on voit déjà les conséquences, la fonte des glaciers, les sécheresses, les inondations. Donc, 3 degrés, c'est une moyenne. moyenne en plus. Hein, c'est une moyenne qui va se décliner différemment
selon les régions. C'est pour ça qu'on parle de changement climatique plutôt que de réchauffement climatique, parce que selon les régions, ce n'est pas les mêmes conséquences.
Absolument.
Alors, je vous pose aussi la question, cette fois directement, est-ce qu'au moment de la COP21, au moment de l'accord de Paris, on n'a pas un petit peu enjolivé la situation en disant que l'objectif de limiter à 2 degrés était atteignable, alors qu'on savait que ce ne serait peut-être pas? Corinne Lepage.
Écoutez, ce qui est très positif dans l'accord de Paris, c'est qu'il existe. Et d'avoir mis d'accord 196 États sur un objectif partagé, même s'il y a une part, je dirais pas d'hypocrisie, mais enfin une part de non-dit, disons les choses comme ça, dans l'accord, parce qu'on savait très bien qu'on était sur des trajectoires de 3,5 degrés et pas de 2 degrés, c'est extrêmement important. Mais là encore, je redis ce que je disais il y a une seconde, c'est que ça ne suffisait pas et ça ne suffit toujours pas. Et comme le disait Madame Azam il y a un instant, quand on voit déjà les catastrophes qu'on a subies cette année, vous imaginez ce qui va se passer quand on va frôler les 2 degrés puis les dépasser.
Geneviève Azam, Corinne Lepage parle de non-dit. Est-ce qu'on a... Allez, est-ce qu'on peut parler de mensonge à l'époque?
Écoutez, je pense que ça a été une victoire diplomatique.
Oui.
C'est vrai. Pour la France en particulier, qui a montré que nous avions encore une diplomatie en France. Mais le problème, c'est qu'on ne négocie pas avec le climat. Si les États se mettent d'accord pour arrêter une guerre, on peut arrêter une guerre du jour au lendemain. On décide d'un accord de Paris, les émissions continuent, la concentration du carbone dans l'atmosphère continue, et on ne négocie pas avec le carbone. Et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que la diplomatie ne suffit pas, on a besoin de mesures contraignantes. C'est pas simplement un accord autour d'une table entre personnes de bonne foi. On a besoin de contraintes. Et l'accord de Paris, là où on a peut-être pas menti, mais en tout cas on ne l'a pas assez dit, il n'est absolument pas contraignant. Y compris les États-Unis auraient pu rester, parce que ce n'était pas une très forte contrainte pour eux. C'est beaucoup plus politique vis-à-vis de sa propre opinion interne qu'une contrainte par rapport à l'accord de Paris.
Alors la conséquence logique de ce que vous nous dites depuis 5 minutes, c'est qu'il faut prendre des mesures plus drastiques, Corinne Lepage?
Oui, je dirais...
Lesquelles? Faut aller...
Je crois que ce qui vient d'être dit est tout à fait juste, sauf qu'on ne va pas y arriver là, et que, à mon sens, ce qui peut être fait de plus efficace aujourd'hui, c'est de faire travailler la société civile. Parce qu'on voit qu'il y a une appétence de la part des sociétés civiles du monde entier.
C'est-à-dire les citoyens,
les
entreprises...
pour que ça change. Vous savez, il y a aujourd'hui...
Les collectivités locales...
Il y a quelque chose qui se développe beaucoup, dont on ne parle pas encore beaucoup. Ça s'appelle la justice climatique. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Dans plusieurs pays du monde, ça a commencé par les Pays-Bas avec Urgenda, il y a un an et demi, vous avez des citoyens qui saisissent la justice pour faire condamner les États, leur État, à faire ce qu'il ne fait pas pour les sauver. Vous avez ça aux États-Unis, avec des enfants dans le Massachusetts. Vous avez ça au Pérou. Vous avez ça en Asie du Sud-Est.
C'est une sorte de droit opposable, en fait.
C'est les gens qui disent, attendez, nous, on veut sauver notre peau et celle de nos enfants. Maintenant, ça suffit. Il faut que les États se soumettent à la règle. Et les États-Unis, il y a même une décision qui a été rendue qui dit que ces principes-là sont supérieurs au droit constitutionnel américain. C'est aujourd'hui, je suis porteur d'une déclaration universelle des droits de l'humanité. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire de reconnaître que, bien sûr, les droits de l'homme, ça reste fondamental, on sait qu'ils sont pas respectés dans le monde. Mais il y a aussi les droits et les devoirs de l'humanité. C'est-à-dire de persévérer dans leur être et de sauvegarder les autres espèces qui, elles, n'ont pas la responsabilité de s'autodétruire.
Geneviève Azam, vous le disiez, il faut des règles plus contraignantes, c'est ce que disait à l'instant Corinne Lepage.
Oui, et je pense, alors si on regarde la cause des émissions de gaz à effet de serre, en particulier du carbone, elle est très identifiée, c'est l'utilisation des énergies fossiles. Donc là, il faut vraiment qu'on avance dans la réduction drastique de la production à partir des fossiles. Et là, c'est vrai que la loi, nous avons eu en France une loi concernant les énergies fossiles, l'utilisation des énergies fossiles. Bon, nous n'avons pas le temps d'en parler peut-être. Si elle dessine une direction qui est intéressante, elle est très insuffisante au regard de ce qui est nécessaire aujourd'hui. Donc il faut vraiment s'attaquer aux causes, Hein, c'est-à-dire l'utilisation des énergies fossiles. Et il y a un autre gaz à effet de serre qui est explosif aussi, c'est le méthane. Mmh. Et on en parle beaucoup trop peu, on parle essentiellement du carbone. L'augmentation de la concentration du méthane, qui est un gaz très puissant, qui dure moins longtemps, qui a une durée de vie plus courte, mais qui est très puissant dans l'atmosphère, est aujourd'hui absolument dramatique. Et là, on connaît... On sait ce qu'il faudrait faire pour réduire drastiquement l'utilisation des fossiles.
Le débat du jour sur RFI. Guillaume Nodin.
En préparant cette émission, je me suis aperçu que 6683 centrales à charbon étaient encore en fonctionnement dans le monde, Corinne Lepage. Est-ce que c'est la clé du problème ou une partie
C'est pas que charbon, vous avez le pétrole, vous avez le gaz de schiste. On y a ajouté ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire les sables bitumineux au Canada, c'est le pétrole offshore, c'est-à-dire que non seulement on sait qu'on ne devrait pas utiliser globalement plus de 50% de ce qu'on a dans le sous-sol, mais par-dessus le marché, on ne le fait pas et on va en chercher d'autres. Donc on est totalement déraisonnable. Totalement déraisonnable. Et c'est pour ça, je le redis, c'est que ce ne sont que les sociétés civiles, c'est-à-dire les collectivités publiques, les gens, les entreprises qui sont dans l'économie du Nouveau Monde, pas celle du pétrole, bien sûr, qui peuvent...
L'économie verte.
Oui, voilà. Qui peuvent modifier très vite, finalement, les comportements, parce que les intérêts économiques du monde pétrolier dans son ensemble sont si puissants qu'on voit bien que les États ne sont pas capables d'imposer ce qu'ils devraient imposer.
Donald Trump a annoncé la fin du programme d'arrêt des centrales à charbon aux États-Unis. C'était prévu par Barack Obama notamment, et comme il prend assez systématiquement le contre-pied de ce qu'a fait son prédécesseur, il a décidé qu'on ne fermerait pas les centrales à charbon. C'est évidemment un très mauvais signal, Geneviève Azam.
Oui, d'ailleurs, il a envoyé un tweet, je crois, selon son habitude, hier ou avant-hier, qui montre que la production de charbon a augmenté aux États-Unis depuis qu'il est élu. Et justement, le mandat de la délégation américaine à Bonn, c'est justement de la promotion. Il y a un article extraordinaire dans le New York Times aujourd'hui, c'est de promouvoir l'industrie des fossiles et le nucléaire. Alors, le charbon propre, le pétrole propre et le nucléaire propre, on sait ce que ça veut dire, comme solution justement au dérèglement climatique. Ça va être quand même le mandat de la délégation américaine. Et on peut se faire du souci. Parce que Trump, c'est vrai que les excès de Trump cachent toute la mollesse des autres. Et on peut s'inquiéter aussi du fait qu'il peut trouver un certain écho auprès d'États qui n'ont pas non plus envie de prendre les mesures qui s'imposeraient aujourd'hui. Donc c'est très grave aussi que cette délégation arrive comme ça à Bonn en toute impunité après toutes les déclarations qu'ils ont faites et qu'ils aient exactement cette place-là sans aucun risque. On n'a pas de droit international aujourd'hui qui permettrait de décider qu'il y a un crime contre l'humanité. Qui est proféré quand même. Un crime d'écocide, appelons-le comme on veut, on en discute aujourd'hui, mais ce n'est plus possible qu'un État puisse prendre des décisions comme cela, qui sont à l'encontre, qui sont d'un obscurantisme absolument total, à l'encontre de tout le savoir scientifique minimal.
Les autres pays doivent-ils compenser les retraits américains dans tous les domaines?
C'est quand même la bonne nouvelle, enfin si je puis dire la bonne nouvelle, c'est que la position de Trump a conduit un certain nombre de pays, je pense par exemple à l'Inde, je pense au Brésil, des pays qui étaient pas fanatiques, si je puis dire, des accords de Paris, qui l'ont signé, mais enfin c'était pas franchement pour eux majeur par rapport aux problèmes de développement. On dit ça donne envie de faire plus. Je voudrais juste dire une chose. Je suis un peu inquiète de voir l'attitude de la France dans cette affaire-là, dont je trouve que sur Bonn, elle est très en retrait. Je ne comprends pas très bien, par exemple, que demain matin soit organisée à l'Élysée une réunion pour vanter les mérites de la réunion qui se tiendra à Paris au mois de décembre, alors qu'on est en plein début de COP.
Climatique, c'est ce que veut organiser
Emmanuel Macron. Pourquoi pas, mais je veux dire en faire une espèce d'outil de concurrence avec ce que font les Nations Unies, qui ont besoin au contraire d'être renforcées, d'être soutenues. Je trouve que c'est une responsabilité extrêmement lourde et je trouve que, pardonnez-moi le terme, c'est peut-être un peu prétentieux.
Voilà, je pense que le message sera passé. vous en avez parlé un petit peu, Corinne Lepage, de la question financière. La contribution américaine au fonds vert n'est pas compensée. Geneviève Azam, vous qui êtes économiste, c'est un problème majeur, ça, cette question financière et la participation américaine?
Absolument, c'est un problème majeur. Bon, même si on pourrait discuter du fonds vert, hein, de comment il est alimenté et surtout comment sont utilisées les ressources du fonds vert. Et là, je vais, excusez-moi, renchérir un petit peu par rapport à ce que dit Madame Lepage, c'est que le gouvernement français, quand même, dans sa dernière loi de finances, a supprimé le fonds vert pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Donc il y a quelque chose, puisqu'ils n'ont pas accès de la même manière au fonds vert international. Hein. Et ça, c'est une décision qui vient d'être prise. Ce n'est pas un bon signe, d'autant plus que le fameux 12 décembre, le sommet climat qu'organise Emmanuel Macron, c'est censé être sur les financements. Donc il faut que la France, quand même, si nous organisons un sommet sur les financements, il faudrait que nous ayons des choses à proposer qui soient d'une autre teneur. Et je suis d'accord que ce n'est pas le moment d'affaiblir les Nations Unies. Trump, son projet, c'est d'affaiblir définitivement les Nations Unies.
Le multilatéralisme en général.
Absolument. Donc là,
de plus payer, d'ailleurs, de plus payer ses contributions aux différentes institutions. Et bon, le Fonds vert, moi j'ai suivi comme député européen pendant 5 ans les COP, hein, entre 2009 et 2014. On parlait chaque fois du fonds vert, sauf qu'on ne parlait jamais de la manière réelle dont on allait l'alimenter. Grâce aux accords de Paris, on était arrivé quand même à être un peu plus précis. Il est clair que la défection des États-Unis est extrêmement grave, parce que vous voyez bien qu'il y a un problème de confiance. Les pays du Sud, nous, à juste titre, soulignent la dette climatique que nous avons, et c'est indéniable. Et une manière de faire les choses, c'est de dire, oui, on l'assume et on paye précisément pour cette dette climatique. À partir du moment où vous avez l'État, finalement, qui est le plus responsable du passé, je ne parle pas de l'avenir, du passé, qui dit, moi, je m'en lave les mains, je ne mettrai plus un centime dans cette affaire-là, la question de la confiance et de l'engagement des pays du Sud, notamment des plus pauvres, vous voyez bien que c'est quand même très difficile.
Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, Geneviève Azam, l'aide des pays riches aux pays pauvres pour l'Union européenne en 2016, c'était environ 20 milliards d'euros sur ces questions climatiques. Est-ce que c'est assez?
Non, je pense que nous devrions aussi, l'Union européenne aussi, devrait être vertueuse. Il y a, je pense, actuellement, là, pour l'Union européenne, il y aurait une occasion extraordinaire de reprendre le leadership sur la question du climat. Elle l'a eu dans les années 1990.
Oui,
et là, pour l'instant, les objectifs, même les objectifs en termes de réduction qu'elle s'est donnée pour 1930 sont insuffisants. 40% de réduction des émissions en 2030, c'est insuffisant. Il faudrait arriver à 50%.
Et 28% des 27% de renouvelables, c'est beaucoup trop faible.
C'est beaucoup trop faible, 27% de renouvelables. Donc, l'Union européenne peut-être pourrait retrouver, au niveau international, recréer cette confiance qui est rompue, effectivement. Mais cela faudrait dire vraiment des engagements beaucoup plus importants. Et je suis très inquiète parce que la prochaine COP, qui est une COP importante, puisque c'est une COP...
COP 24 à Katowice. En Pologne.
COP dans laquelle on espérait que les États pourraient s'engager pour augmenter leurs engagements volontaires. Bon, donc vous signalez, c'est en Pologne, en pleine région charbonnière de la Pologne.
Je vous coupe juste une seconde, parce que à la précédente COP de Varsovie, qui devait être la 21, COP 19, 19 ou 20, je ne sais plus, ça devait être 19, puisqu'il y a eu Lima entre les deux. Varsovie avait rien trouvé de mieux que de faire le sommet du charbon propre en même temps, de virer le président de la COP en exercice, c'est-à-dire le ministre de l'Environnement polonais. Donc on peut être quand même un peu inquiet de voir une COP se refaire à Katowice.
Alors que justement nous espérions, et nous espérons toujours, nous allons tout faire pour, que justement ce soit l'occasion pour les États de revoir à la hausse leurs engagements.
Et si on ajoute à ça le coût des catastrophes qui se produisent de plus en plus, on le voit aujourd'hui, le Premier ministre français est aux Antilles pour après l'ouragan Irma, ça va coûter de plus en plus cher dans les années à venir. Merci à vous, merci Geneviève Azam, merci Corinne Lepage d'avoir participé à ce débat, merci à Florence Ponce, à Quentin Ferral qui vous ont fait venir, et merci à Quentin Bresson qui était à la réalisation. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.